Vous êtes sur RTL.
Surtaxé.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche, l'émission avec ceux qui font l'actualité de la semaine. Chaque dimanche, on se retrouve avec les personnalités qui font l'actu de la semaine.
Focus Dimanche,
Mohamed Bouafsi.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est l'invité exceptionnel de Focus Dimanche. Réforme des retraites, projet de loi contre l'immigration, hausse des chiffres de l'insécurité. Je lui pose toutes ces questions. Arthur Sadoun est le président de Publicis. C'est l'un des plus grands patrons français. Il a été victime d'un cancer. Il prend la parole en exclusivité. Il lance un mouvement pour lutter contre le tabou du cancer au travail. Loïc Akono est joueur de basket à Metz. Le week-end dernier, un spectateur lui a lancé après une chute sur le terrain « Relève-toi, bonobo ». Loïc Akono témoigne sur RTL. Il est le vainqueur du Grand Prix du Festival de bande dessinée d'Angoulême. Riyad Satouf a vendu 3 millions d'exemplaires dans le monde. Vous l'adorez sur RTL, ça tombe bien, il est mon invité.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Réforme des retraites, projet de loi sur l'immigration, hausse des chiffres de la délinquance. C'est le ministre le plus connu du gouvernement. Gérald Darmanin est le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Il est l'invité exceptionnel de Focus dimanche. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, une question très simple, monsieur le ministre. Vous ferez quoi à 64 ans?
Je ne sais pas. J'espère que je ne ferai plus de politique, en tout cas, parce que je me serai consacré à ma famille. Et j'espère que j'aurai une autre vie et que je travaillerai, j'espère, dans quelque chose qui me plaît.
Vous travaillerez toujours?
J'ai du mal à concevoir ma vie sans le travail. Je ne sais pas dans quel état je serai à 64 ans, quelle sera ma vie, ma vie familiale, ma santé personnelle. Donc c'est difficile à dire, mais oui, j'espère que je travaillerai. Oui.
Vous avez déclaré dans Le Parisien, Monsieur Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort. 1 270 000 personnes dans les rues la semaine dernière, 2,5 millions selon les manifestants. C'est plus que le 19 janvier dernier, plus de monde dans la rue et plus de journées de mobilisation. Vous pensez vraiment, Gérald Darmanin, que dans ce million de personnes, il n'y a que des bobos, des gens qui croient une société de la paresse, une société sans effort?
Non, je ne confonds pas Monsieur Mélenchon et plus de millions de manifestants. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la gauche et les gauchistes, pardon de le dire comme ça, c'est un peu rapide. Mais il y a des gens qui sont sincèrement inquiets de leurs conditions de travail. Il y a des gens qui sont déménageurs dans les ouvriers textiles de Tourcoing que je connais. Des gens qui ne veulent pas travailler plus parce qu'ils sont usés par la vie. Il faut les entendre. Il y a des femmes qui sont inquiètes de ce qu'elles entendent. Il faut les entendre également. Ils aiment le travail, ces gens. Et en même temps, ils ne veulent pas travailler dans n'importe quelles conditions. Et puis, il y a les gauchistes. Et là, je crois que M. Mélenchon, Mme Rousseau, qui défendent, mais ils le disent, une société avec de moins en moins de temps pour le travail, avec de plus en plus de droits à la paresse. C'est le mot même de Mme Rousseau de la NUPES. Moi, je ne suis pas pour une société de paresse. Je suis pour une société de travail. Et je pense qu'il faut redire en France, même si ce n'est pas populaire, que le travail, c'est une belle valeur. Et je crois que c'est une réflexion, la société de paresse, la diminution du travail dans la vie, qui est une réflexion de personnes qui sont bien nées ou qui ont un gros patrimoine. Quand vous avez de l'immobilier, un bel appartement à Paris, deux assurances vie données par vos parents, vous pouvez vous permettre de dire bah, « tiens, la société de la paresse, ça peut être sympathique ». Quand vous êtes ouvrier, employé, quand vous travaillez pour payer les études de vos enfants, vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça.
Donc vous moi, pouvez comprendre, Monsieur le Ministre, que dans ce million de personnes, il y a des gens qui ont travaillé jusqu'à 60 ans, 61 ans, et qui sont fatigués, mais qui n'ont pas envie de travailler un an de plus, deux ans de plus.
Mais je le comprends. D'abord, ça fait plaisir à quasiment personne de travailler plus. Ce n'est pas parce que ça ne fait pas plaisir qu'il ne faut parfois pas le faire.
Et pas pour gagner plus en plus.
Alors je pense que c'est une autre question. Moi je pense qu'il faut mieux payer les gens. Je suis pour le travailler plus et gagner plus. Voilà, je suis resté assez adepte de cette pensée de la droite et de Nicolas Sarkozy. Moi je crois qu'on peut tout à fait dire aux Français il faut travailler davantage pour payer ce qu'on a fait pendant le Covid, parce que notre pays est dans une compétition mondiale avec l'Asie, avec l'Afrique, avec les États-Unis, qu'on doit payer notre progrès, voilà, que c'est positif le travail, que c'est difficile mais positif. Et en même temps, se dire que oui, les salaires ne sont pas assez élevés en France, que oui, il y a des excès de la finance qui sont inacceptables, que oui, on doit davantage rémunérer le travail par rapport au capital. Mais les deux discours ne sont pas du tout antinomiques.
Mais vous pouvez comprendre que quand vous utilisez le mot bordélisation de la part de la NUPES, vous pouvez comprendre que vous êtes le ministre de l'Intérieur et que ça peut choquer les gens, des gens qui ne cherchent pas le bordel dans ces manifestations.
Vous savez, ce qui choque et désespère, je crois, les Français, c'est que les hommes et les femmes politiques ne parlent plus franchement, voilà, qui utilisent des mots compliqués dans des salons parisiens. Alors, ils ont toujours le costume bien mis.
Oui, vous êtes l'homme de l'ordre.
Non, moi je parle français et je dis aux Français ce que je pense. Alors on a le droit de pas être d'accord avec moi, je le comprends très bien, c'est la démocratie. Je crois que les Français attendent de la sincérité des femmes et des hommes politiques. Et les Français, ils utilisent le mot bordel, voilà. Et quand on met sur 7000 amendements dans une commission, pas encore à la séance publique, 7000 amendements, et sur ces 7000 amendements, il y en a 6000 qui viennent de la NUPES, bah oui, on veut bordéliser le débat. Mais d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, des parlementaires de la NUPES, disent, mais on est là pour faire de l'obstruction. Alors qu'il y a tellement de choses à améliorer sans doute dans ce texte, pour les femmes, pour les jeunes, pour les travailleurs, pour les métiers pénibles. Bien évidemment qu'il faut modifier le texte du gouvernement. Mais oui, il y a une forme... pour une partie de la gauche, pas pour toute la gauche, pour une partie de la gauche, de volonté de faire de l'obstruction, de bordéliser.
Alors, si les pas utilisé ce genre de langage, c'est François Bayrou qui dit
ça. Oui, mais bah, chacun a sa personnalité. Moi, je ne suis pas François Bayrou.
Et je vais plus loin à votre collègue. Je ne dirai jamais à quelqu'un qui doute de cette réforme, qui s'oppose à cette réforme parce qu'il a un travail pénible, qu'il est paresseux. Jusqu'à preuve du contraire, ces mots de Gabriel Attal, c'est votre collègue, monsieur le ministre.
Oui, non, d'abord, il n'a pas tout à fait dit ça, Gabriel Attal. Et puis, on n'a pas la même circonscription, la même histoire. Moi, je suis député d'une circonscription ouvrière de Tourcoing, où les employés et les ouvriers sont majoritaires, où les gens se lèvent tôt le matin. Moi, mon père est mort à 900 euros de retraite parce qu'il était commerçant toute sa vie. Ma mère est femme de ménage, on n'a pas la même histoire. Et c'est tant mieux, c'est ça un gouvernement, c'est une majorité de gens très, très différents. Moi, j'utilise des mots qui sont, pardon de le dire comme ça, ceux de mon milieu social, d'un milieu populaire. Et je crois que ça fait à la fois mon charme et peut-être un certain nombre de personnes qui ne m'aiment pas. Je suis comme ça, je suis entier. Je pense que la politique... elle perd et elle a perdu. Chacun le voit, l'abstention, le vote pour les extrêmes. Elle a perdu parce que les hommes politiques sont de moins en moins sincères. Ils disent de moins en moins ce qu'ils pensent. Moi, je dis ce que je pense. Les Français m'aiment bien, eh ben, qui me soutiennent et qui votent pour moi. Les Français m'aiment pas, eh ben, c'est pas grave, ils me battront aux élections et je ferai autre chose de ma vie. Je pense qu'il faut arrêter le discours édulcoré parce que les gens, ils vivent pas des choses édulcorées.
Vous parliez de la NUPES. Voici la réponse de l'opposition. C'est Raquel Garrido au micro de Pierre Collas, dimanche sur RTL.
Gérald Darmanin fait des provocations pour éviter de parler du fond. Il sait que la bataille des argumentaires est perdue. Le gouvernement est absolument nu. Tous les arguments qu'ils ont mis en avant jusqu'à présent sur la prétendue souci pour les carrières longues, en fait, c'était faux. Sur la prétendue avancée de la retraite minimum à 1200 euros, en fait, ça concerne très, très peu de personnes. Et en plus, c'est une loi de 2003 qui pourrait s'appliquer déjà. En réalité, les gens se sont aperçus que c'était de l'enfumage. Gérald Darmanin, aujourd'hui, effectivement, fait une provocation un peu grossière. Mais en réalité, ma recommandation, c'est de l'ignorer. En fait, Gérald Darmanin m'indiffère.
Vous êtes un provocateur, Gérald Darmanin ?
C'est très drôle parce que je l'indiffère, mais elle me le cite 4 fois en 2 minutes. Donc je fais de la politique, et c'est quoi la politique ? C'est de faire du débat. Et voilà, Madame Garrido, répond à mon intervention. Bah, tant mieux, parce qu'il vaut mieux qu'elle fasse ça, me semble-t-il, qu'elle insulte les policiers comme le fait régulièrement la France Insoumise. Tant mieux, on parle d'autre chose que de la haine anti-police de la France Insoumise. Moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Les Français, ils se posent des questions. Ils s'inquiètent. Ils sont contre la réforme des retraites majoritairement, sans aucun doute. Et en même temps, ils savent qu'il faut travailler davantage et qu'on n'a pas trouvé de stock d'or dans les ministères quand on est arrivé et qu'on n'aura pas demain non plus. Et que nous parlons franchement aux gens. Et que les Français, vous savez, ils peuvent être en colère à un moment donné. Et à la fin, lorsqu'on retourne pour faire le bilan de ce qui s'est passé, ils disent « Mais vous avez été courageux ». Et je pense qu'il faut écrire... Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois cette semaine, il faut écrire pour le livre, il ne faut pas écrire pour le journal. Le journal, ça va, ça vient, ça finit toujours par emballer les poireaux, disait Jacques Chirac. Le livre, c'est ce que l'on laisse à notre génération future. Et moi, je suis très heureux, très fier d'être dans un gouvernement qui est courageux au point de faire une réforme des retraites au moment où c'est difficile. Et il y a, oui, des choses difficiles à faire quand on fait de la politique. Il ne faut pas toujours chercher la popularité, la démagogie.
Mais vous dites, il faut parler franchement aux Français. Oui. Il faut leur dire les choses. Vous êtes issu d'un territoire populaire ? Vous êtes issu de Tourcoing, vous le revendiquez. Beaucoup de Français ne se sentent pas prêts à travailler 2 ans de plus, on vient de le dire. Vous entendez leur souffrance, ceux qui vous disent la retraite avant l'arthrite, ils parlent et on a l'impression que le gouvernement, vous dites parler franchement, mais on a l'impression que le gouvernement a perdu la bataille de la communication.
Non, d'abord, il n'y a pas une réforme des retraites qui a été populaire.
C'est vrai.
Arrêtons quelques instants. Il y a des choses difficiles à faire quand on est en responsabilité politique. C'est à ça qu'on reconnaît les partis de gouvernement. La France Insoumise ne sera jamais un parti de gouvernement parce qu'elle n'ose pas dire des choses difficiles aux Français. Le Front National ne sera jamais un parti de gouvernement parce qu'ils n'osent pas dire des choses difficiles aux Français. Les partis de gouvernement disent des choses difficiles aux Français. On est pour, on est contre. Mais regardez, même le Parti Socialiste, lorsqu'il était en responsabilité, a fait une réforme des retraites, la réforme Touraine. Donc je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Il n'y a pas de stock d'or caché, et qu'il faut travailler davantage. On n'a pas rien sans rien. Moi, je voudrais juste terminer quelque chose sur ce que vous dites. Je comprends très bien qu'il y a des métiers où les gens ne peuvent pas travailler jusqu'à 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans. C'est une évidence. Mais malheureusement, c'est ce système d'aujourd'hui qui les travaille jusqu'à 67 ans. Je redis un exemple personnel parce que je pense que les Français croient que les femmes et les hommes politiques, les ministres vivent dans un monde à part. Ma maman est femme de ménage. Elle doit partir en retraite là, au mois de juillet prochain, à plus de 67 ans, parce que sinon, elle n'avait pas de quoi vivre. C'est-à-dire que les grands discours humanistes de la France insoumise...
Libération a fact-checké le profil de votre maman. Ils ont expliqué, via Check News, qu'elle ne profiterait pas de cette réforme des retraites.
Et bien sûr, parce qu'elle part en retraite au mois de juin. Donc évidemment, évidemment, parce que la réforme des retraites, c'est pour les gens qui sont nés dans les années début des années 60. Donc, bien sûr, évident. Ce qui est vrai, tout à fait vrai, c'est que ma maman, elle est femme de ménage, qu'elle s'est levée à 5h du matin pour nettoyer la merde chez les gens et dans des bureaux depuis 40 ans que je la vois vivre. Elle a une vie difficile, sans être très difficile. Mais je l'ai vue travailler au-delà de l'âge légal. Pourquoi ? Parce que sinon, elle aurait eu une petite retraite. Parce que cette histoire d'accélération Touraine mise en place par les socialistes et cette histoire de non-prise en compte des métiers pénibles et de retraite minimum inacceptable, c'est tout ce que nous a laissé en héritage la gauche. La gauche gauchiste, la gauche que défend Madame Garrido. Donc elle a des grands discours, Madame Garrido, mais elle ne parle pas à ma maman qui, elle, est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable et pouvoir se loger à peu près correctement parce qu'elle n'est pas propriétaire de son patrimoine. Moi, je ne suis pas de la famille de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire. Je suis très heureux pour lui parce que moi, je ne suis pas jaloux. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. Mais je veux dire que ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail et du mérite et de l'effort. Et peut-être que ça me donne une petite façon de leur dire « Arrêtez votre hypocrisie, arrêtez parce que ça se voit trop. » Et je pense que les gens l'ont vu aussi.
Vous venez d'évoquer le thème de la méritocratie. Est-ce qu'on peut encore réussir en France quand on s'appelle Moussa Wakid, le nom de votre grand-père ? Est-ce qu'on peut réussir quand on s'appelle Gérald et qu'on vient de Tourcoing ?
Alors, Gérald, c'est un prénom qui n'est pas issu d'immigration. Mon deuxième prénom, c'est effectivement...
Je prenais deux thématiques différentes.
Oui, c'est mon deuxième prénom et Moussa de mon grand-père, tirailleur algérien. Et peut-être que mes parents, en m'appelant Gérald, m'ont davantage aidé. Parce que, contrairement à ce que dit M. Zemmour et Mme Le Pen, s'il y a un problème de prénom en France, c'est que Mohamed ne trouve pas de stage. C'est ça le problème. Je ne dis pas que la société est raciste. Je ne pense pas que les Français le sont. Je pense que c'est plus difficile, bien évidemment. Pour quelqu'un issu d'immigration, ou pour quelqu'un issu d'un milieu ouvrier, de réussir. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas opposer Kevin et Mohamed. Je pense qu'ils ont tous les deux les mêmes problèmes. Le même absence de réseau, le même absence, me semble-t-il, de soutien. Et je crois qu'il y a une sorte de victoire des métropolitains. On dit rapidement des Parisiens. Je pense que c'est un peu difficile pour les Parisiens, parce qu'il y a des pauvres, évidemment, à Paris qui ont du mal à s'en sortir. Je pense qu'il y a une France... la France issue d'immigration, la France issue de la classe ouvrière et d'employés qui a beaucoup de mal à réussir et c'est, je crois, plus dur. Je ne pense pas que ce soit impossible. Je pense que c'est beaucoup plus dur.
Vous avez présenté jeudi en Conseil des ministres un nouveau projet de loi sur l'immigration, 22e texte en 3 décennies. Alors là, vous avez fait l'unanimité contre vous, Gérald Darmanin. À gauche, on explique que vous facilitez les expulsions. À droite, on craint qu'il y ait trop de régularisation avec le titre de séjour métier en tension destiné à régulariser des clandestins exerçant un emploi qui ne trouve pas de preneur. C'est un texte de gauche ou de droite, Gérald Darmanin ? Ou vous êtes habitué déjà au en même temps et vous le pratiquez ?
Le général de Gaulle disait quand ni le patronat ni la CGT ne sont d'accord, c'est que c'est une bonne réforme. Ça veut dire que ça correspond aux intérêts du pays, disait-il. Voilà. Aujourd'hui, il y a des postures. D'abord, personne n'a lu ce texte. Donc, on vient de le sortir. Je pense qu'il faut que chacun le lise, comprenne, parce que j'entends beaucoup de choses de fake news, comme on dit aujourd'hui, qui ne correspondent pas à la réalité. Que veut faire ce texte ? Ce texte, il veut répondre finalement aux deux grandes questions que pose immanquablement l'immigration dans notre pays. Il pose la question de l'intégration. Aujourd'hui, les étrangers qui sont sur notre sol et qui ont des papiers s'intègrent très mal à la société. Un peu de leur faute, beaucoup d'une autre. Notamment parce que nous n'exigeons pas un certain nombre de choses dès le début pour être clair avec les étrangers. On n'exige pas qu'ils parlent français. 25% des étrangers à qui nous donnons des papiers, je ne parle pas des étrangers illégaux, parlent très mal ou comprennent très mal le français, et notamment les femmes. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de séparatisme, de communautarisme et de difficultés pour accéder au chômage, à l'emploi, à l'éducation pour ces personnes ? Donc ce que nous proposons par exemple dans ce texte de loi, c'est que les étrangers désormais signe un engagement pour respecter les valeurs de la République, la liberté sexuelle, la liberté de croyance, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on pourra retirer leur titre de séjour lorsqu'ils ne respecteront pas ces engagements. Par exemple, un homme qui ne veut pas se faire soigner par une femme dans un hôpital. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur ne peut pas lui retirer son titre de séjour. Demain, je pourrai le faire grâce à cette loi. Et par ailleurs, nous demandons à tous les étrangers qui viennent sur notre territoire de passer un examen de français, comme ça se passe dans les pays anglo-saxons, pour qu'on puisse bien constater qu'ils puissent parler et comprendre le français en France. Donc c'est un énorme sujet d'intégration. Et puis un sujet évidemment d'expulser davantage les personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol. Et les étrangers délinquants, ceux qui commettent des crimes et des délits en France, ne peuvent pas rester en France.
Personne n'accepte. Vous parlez des OQTF, notamment.
Alors, les gens qui sont illégaux sur le territoire national ne sont pas tous des délinquants. Oui. Il y a des gens qui tentent leur aventure, si j'ose dire, en France, qui parfois trichent pour rester en France. On peut les comprendre pour plein de raisons qui sont très humaines. Ils ne doivent pas rester sur le territoire national. Moi, je parle encore davantage, évidemment, de ceux qui sont en France, mais qui ne respectent pas les règles de la République, qui commettent des crimes, qui s'attaquent aux policiers, qui sont auteurs de violences conjugales. Aujourd'hui, 4000 parents sont condamnés par la justice et ne peuvent pas être expulsés du territoire national parce que la loi m'interdit de le faire. Je voudrais le faire, mais la loi me l'interdit. Donc j'ai demandé aux parlementaires qu'ils modifient la loi pour pouvoir expulser les criminels. Pour résumer, je pense que c'est très simple. Les étrangers sont les bienvenus en France du moment qu'ils souhaitent s'intégrer à la République française, aimer notre pays et nos valeurs. Ils ne sont pas les bienvenus en France lorsqu'ils ne veulent pas respecter nos valeurs.
Pour prolonger le débat, Emmanuel Macron a proposé une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les espaces ruraux qui sont en train de perdre leur population. La droite et l'extrême droite répondent « ne mettez pas de l'insécurité dans les provinces ». Le maire de Tourcoing, il leur répond quoi ?
Bon, le maire de Tourcoing, il a été maire d'une ville très bigarrée, voilà, qui a connu l'immigration depuis toujours, parce que vous savez, dans les imprimeries, puisque c'est là qu'on faisait la redoute des Trois Suisses, évidemment, aux Blanche-Portes, ou dans les ouvriers textiles, c'était des gens qui venaient de Pologne, d'Italie, d'Espagne, et puis ensuite du Maghreb. Et ce qu'a dit le président de la République, c'est une vérité de la palisse. L'Île-de-France, c'est plus de 50%. Juste la région Île-de-France, 50% des demandeurs d'asile. 50%. Est-ce que c'est une bonne politique de les enfermer dans un territoire où il n'y a pas de logement, de très grosses difficultés sociales ? Non. Il vaut effectivement mieux que les choses soient mieux réparties sur le territoire national. Je veux dire, évidemment, à ceux qui s'inquiètent de personnes qui viendraient en France et qui commettraient des actes de délinquance, pour ne pas être naïf non plus, que justement le projet de loi prévoit de davantage les expulser. C'est pour ça que la droite, à mon avis, nous soutiendra finalement sur ce projet de loi. Parce que nous faisons ce qu'elle n'a jamais fait. Nous mettons fin aux protections de gens qui étaient criminels et qu'on ne pouvait pas expulser parce qu'ils étaient mariés avec une Française ou un Français, parce qu'ils avaient eu un enfant en France. Nous mettons fin à ça. Donc oui, nous redisons que les étrangers qui veulent s'intégrer sont les bienvenus dans la République, comme depuis que la France existe. Et non, les étrangers qui commettent des actes de délinquance ne sont plus les bienvenus dans la République.
En février 2021, vous aviez débattu avec Marine Le Pen, Gérald Darmanin, et vous aviez déclaré que vous la trouviez trop molle. Vous regrettez ces propos ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est tellement vrai. C'est une stratégie de Mme Le Pen qui essaye de se respectabiliser. Non, je pense qu'il y a chez Mme Le Pen une stratégie pensée de notabilisation. Alors, ça passe par la cravate à l'Assemblée nationale, hein, mais ça passe aussi par des propos qu'elle souhaite plus modérés. Et j'ai voulu dénoncer. Alors, je m'aperçois en politique, j'apprends tous les jours, évidemment, que le second degré n'est pas à manier. On a tendance à prendre les choses telles qu'elles auraient été prononcées au premier degré. C'est évidemment du second degré pour dire que Mme Le Pen essaye d'avoir un discours plus modéré, d'être moins dur sur les sujets régaliens, parce qu'elle préfère parler de sujets sociaux, de sujets culturels.
Comme Emmanuel Macron, vous craignez de la voir à l'Élysée en 2027 ?
Ah ben bien évidemment, moi je pense que c'est un danger qui est évident. Voilà. Alors, Mme Le Pen ou son associé, M. Bardella ou je ne sais quel autre démagogue d'extrême droite, je pense qu'il y a, il y a une réelle possibilité que l'extrême droite gagne en France, oui, pour plusieurs raisons. Les insuffisances de notre action collective depuis très nombreuses années, il faut savoir se regarder en face. Les mouvements du monde aussi qui sont très complexes, les crises économiques, les crises monétaires, les crises migratoires, bien évidemment, la crise de la démocratie sans aucun doute aussi, et puis par absence d'un travail qu'a fait, me semble-t-il, la droite et la gauche qui ne parle plus au peuple. La gauche ne parle plus au peuple, ça fait 20 ans, et ça explique les déboires terribles du Parti Socialiste. Et puis une droite qui singe le Front National, parfois, au lieu de comprendre que ses électeurs sont partis chez Emmanuel Macron.
Vous avez déclaré jeudi dans cet avou que vous aviez un contrat moral avec Emmanuel Macron jusqu'au JO 2024. En tout cas, c'est ce que vous avez laissé entendre. Vous ne serez plus là après les JO 2024 ?
Ah, d'abord, si je suis là jusqu'au JO 2024, ce sera une très belle chose pour moi. Vous savez, ça fait quasiment 6 ans que je suis ministre.
Mais cette question est très claire, Gérald Darmanin. Oui. Vous l'entendez, cette petite musique ? Vous vous préparez pour 2027 ?
Je vais vous répondre une chose très simple. Ma grand-mère, qui était femme de mineur, disait « vaut mieux faire envie que pitié ». Hein, Thio, faut mieux faire envie que pitié. Donc, laissez dire. Moi, je ne me prépare pas pour une élection présidentielle. D'abord, ce serait extrêmement prétentieux. Voilà, être président de la République en France, c'est être De Gaulle, être Mitterrand, être Nicolas Sarkozy ou être Emmanuel Macron.
Et François Hollande.
Oui, François Hollande, mais tous les présidents de la République ont des compétences extraordinaires, une envie qui parfois confine un peu à la folie, et puis ils avaient un projet à présenter aux Français. Moi, je n'ai rien de tout ça au moment où je vous parle, et je respecte profondément tous ceux qui ont été présidents de la République. Et avant de pouvoir imaginer candidater au suffrage de 60 millions de Français dans le pays que j'aime, il faut quand même se poser des questions.
Vous serez ministre de l'Intérieur après les JO ?
Mais ça ne dépend pas de moi. Je suis très heureux ministre de l'Intérieur au sens où c'est un grand honneur pour moi de l'être, à 40 ans. J'ai la sécurité des Français entre les mains, c'est très difficile, parfois on réussit, parfois on ne réussit pas, il faut rester très humble. Nous avons organisé, je l'ai dit, la Coupe du Monde de rugby, l'avenue du Pape à Marseille, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, le débarquement de Normandie, le débarquement de Provence en 9 mois. C'est un enjeu absolument immense qui me prend au moins un tiers de mon temps par semaine. Je ne me pose pas d'autres questions. Si votre question c'est de dire, est-ce qu'en 2027 je ferai tout pour empêcher Mme Le Pen de gagner, la réponse est oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à qui est le mieux placé pour battre Mme Le Pen ? La réponse est je suis disponible pour en discuter. Mais avant tout, il faut réussir le quinquennat du président de la République.
Ça veut dire quoi, disponible pour en discuter ?
Je pense qu'il faut que la majorité...
Je pense à des noms, à vos amis, Philippe...
Encore une fois, comme dirait Georges Brassens, chacun a quelque chose pour plaire, chacun a son petit mérite. Mais ce n'est pas la bataille des petits chevaux.
Oui.
Qu'importe qui pour l'instant. Qu'est-ce qu'on veut pour les Français ? Et puis surtout, je pense qu'il faut parler aux gens. Au peuple. Nous parlons trop aux gagnants de la mondialisation. On ne parle pas assez à l'immense majorité de nos concitoyens qui galèrent, qui n'arrivent pas à terminer les fins de mois, qui ont du mal pour leurs enfants, qui se posent des questions très importantes.
Gérald Darmanin, les chiffres de l'insécurité augmentent. Il faut les nuancer, puisque l'année 2021, c'était une année de confinement, de pandémie, mais ça colle malheureusement avec l'actualité. On a appris jeudi dernier la mort de Siem, 18 ans, qui avait disparu la semaine dernière. Elle a été retrouvée morte ce jeudi dans une forêt. Son meurtrier a reconnu les faits. Il avait été condamné à 12 ans de prison en 2015. Il a tué une adolescente de 18 ans, monsieur le ministre.
Ah ouais, c'est absolument terrible. Bon, il y a une enquête judiciaire qui est confiée à la gendarmerie nationale. Et on voit bien que, je l'ai dit quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, mais nourri de mes expériences d'élu local, il y a une violence de plus en plus forte dans la société. Personne ne peut le nier. Et plusieurs m'ont traité de naïf. Au mauvais sens du terme, et parfois disant que je jetais de l'huile sur le feu alors que je ne faisais que dénoncer ce qui se passait. Bon, encore une fois, j'essaie de parler franchement. Nous avons un sujet de force de sécurité, pour être plus présent. Nous avons un sujet de justice. Il est évident que le sujet de la justice est un sujet central dans notre pays, peut-être même avant l'action du ministère de l'Intérieur. La question des récidivistes, la question des places de prison, la question de la rapidité de la justice, la question de la hauteur de la sanction. Je sais que le garde des Sceaux, il met beaucoup de moyens, mais il y a beaucoup à rattraper, et je pense que nos concitoyens le voient. Et il y a une question aussi, pardon, de société et d'éducation parentale. Peut-être pas dans ce cas très précis, mais j'ai trop d'exemples de gamins de 13, 14, 15 ans qui donnent des coups de couteau, qui trafiquent de la drogue. Quand c'est le cas, c'est qu'il y a eu une faille dans la parentalité, dans ce qu'a fait la société pour la parentalité. Et je pense qu'il faut aussi remettre l'autorité comme une valeur, comme le travail. Et c'est des valeurs, le travail et l'autorité, malheureusement, qui ont été très bafouées ces dernières années.
Une dernière question, Gérald Darmanin. Vous avez beaucoup évoqué ces dernières heures, ces derniers jours, la lutte contre la violence faite aux enfants.
Oui.
J'ai une question beaucoup plus personnelle, Gérald Darmanin. Sur le thème de la protection de l'enfance, vous aviez une dizaine d'années lorsque votre neveu, le fils de votre grande sœur, ne rentre pas à la maison comme prévu. Paniqué, votre grande sœur appellera votre père. Quand il se rend chez votre beau-frère, il découvre une scène de crime effroyable. Votre neveu poignardé, tué par son père. Votre beau-frère qui se suicidera dans la foulée. Quelle trace vous a laissé ce drame ?
Bon, j'en ai jamais parlé. Quelqu'un l'a écrit dans un livre après des années de vie publique. Bon, c'est évidemment quelque chose qui a profondément touché ma famille. Mon père et ma sœur, évidemment, à vie, seront marqués par ça. Ma sœur est toujours vivante, elle a refait sa vie, et mon père est mort, et je crois qu'il est il a somatisé de ces drames ignobles. Ma sœur divorcée, c'était sans doute on dirait aujourd'hui qu'elle était victime de violence conjugale, ce qui était tout à fait vrai. Elle était frappée par son mari et dans un divorce qui se passait extrêmement mal. J'en ai tiré l'idée que la vie d'abord est très très fragile. Au moment où je suis le père de deux enfants, de petits bébés, je pense que les plus faibles, ma sœur était une femme faible à ce moment-là, méritait d'être davantage protégée. Je pense qu'on aurait tous dû voir, mais j'avais 10 ans, que mon filleul, mon neveu était en danger. Et j'en ai tiré sans doute une volonté de protéger les autres. C'est pour ça que je fais de la politique d'ailleurs. J'aurais pu faire fonctionnaire, j'aurais pu devenir policier ou infirmier, voilà. Mais j'ai choisi de faire de la politique pour aider les autres. Pour essayer peut-être, mais comme ma mère, je l'ai vu plusieurs fois dans des conditions très difficiles, me dire qu'il faut être la relation de ceux qui n'en ont pas. Donc j'étais très jeune, 10 ans, mais oui, je garde ce souvenir ancré en moi, dans la conséquence que ça a eu aussi pour ma vie familiale.
Merci à vous. Merci à vous. Gérald Darmanin, merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'avoir passé un bout de votre dimanche sur RTL avec
moi. Merci beaucoup.
Bon dimanche à vous. Arthur Sadoun est l'un des plus grands patrons français. Il a été victime d'un cancer. Il lance un mouvement pour lutter contre le tabou du cancer au travail. Il s'exprime en exclusivité sur RTL. C'est dans quelques secondes.
Focus dimanche sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Ne plus cacher sa maladie au travail, c'est le choix qu'il a fait après avoir été diagnostiqué d'un cancer. Il est l'un des plus grands patrons français, le patron du groupe Publicis. Arthur Sadoun est mon invité dans Focus dimanche sur RTL. Bonjour Arthur Sadoun.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est que votre parole est rare. Parce qu'on va parler d'un sujet très important aujourd'hui, le sujet du tabou de la maladie et plus particulièrement du cancer au travail. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter un clip réalisé par Publicis qui va passer dans les cinémas dans les prochaines semaines et durant le Super Bowl aux États-Unis, le plus grand événement sportif. Un clip bouleversant.
C'est un cancer.
Arthur Sadoun, 59 secondes avec des images de familles qui se battent contre la maladie, des familles qui se relèvent. Vous vouliez avoir un message, révéler qu'on peut avoir une maladie, un cancer au travail, que ce n'est pas un tabou.
L'objectif de ce film est assez simple, c'est aujourd'hui, les gens d'abord ne réalisent pas la difficulté du traitement du cancer et toutes les souffrances que vous devez traverser durant cette période. Chacun doit être là pour aider quelqu'un qui a un cancer. Il y a un chiffre qui va frapper vos auditeurs, mais une personne sur deux, dans sa vie, va être diagnostiquée avec un cancer. Ça veut dire qu'on va tous vivre avec le cancer, directement ou indirectement. Et ça veut dire par ailleurs qu'on va devoir travailler avec le cancer. Et donc le but de ce film, c'est de sensibiliser la population en général sur l'importance de soutenir les gens qui souffrent du cancer ou de toute maladie chronique d'ailleurs.
Si vous êtes aussi engagé sur le sujet, c'est parce que vous l'avez vécu.
Alors moi, j'ai été diagnostiqué avec un cancer qui s'appelle l'HPV, le papillomavirus. C'est un cancer qui est provoqué par un virus que 80% des adultes vont avoir à un moment dans leur vie. Et c'est un virus où il y a un vaccin qui est valable pour les femmes et pour les hommes. Donc c'est important de vraiment penser à se faire vacciner. Donc moi, quand j'ai appris que j'avais ce cancer, que j'avais subi une opération, que j'allais encore faire de la radio, que j'allais faire de la chimio, je me suis rendu compte que mon corps allait changer, que j'avais plus pouvoir voyager, je passe 80% de mon temps à l'étranger. Et je me suis dit très vite que je pouvais pas mentir à mes équipes, à mes clients, mais même à mes actionnaires, ouais, pour être très franc. Et j'ai décidé de le rendre public.
Et ce qui est fou aussi, c'est que vous avez découvert votre propre cancer, Arthur Sadoun.
Oui, j'ai repéré un petit ganglion sous la mâchoire. Et très vite, j'ai été très très bien pris en main par des docteurs. J'en profite d'ailleurs pour saluer le docteur Toledano qui m'a incroyablement bien soigné et le docteur Hermini qui m'a opéré.
Arthur Sadoun, une personne sur trois cache sa maladie au travail. Pourquoi vous l'avez fait ?
Alors c'est même pire que ça, il y a une personne sur deux qui a peur de le faire, ce qui est incroyable, c'est ce que j'ai compris. Mais vous savez, moi aussi j'ai eu peur. Quand ce truc vous arrive et que vous entendez ces quatre mots « vous avez un cancer », alors évidemment, vous pensez à « est-ce que je vais survivre d'abord ?» Mais après, la question que vous posez, c'est l'impact que ça va avoir sur votre famille, sur votre travail. Et donc, la décision de le révéler comme je l'ai fait, alors que je suis patron d'une entreprise cotée, que mon mandat se terminait quelques mois plus tard, n'était pas une décision facile.
Et vous l'avez annoncé à vos collaborateurs à travers un film.
Alors oui, moi je communique beaucoup par film. J'ai reçu des milliers d'emails de gens qui me disaient toujours la même chose. Ils me disaient « nous on est passé par là » ou « quelqu'un de notre famille ». Et effectivement, le réflexe, c'est d'après avoir peur pour notre vie, on a eu peur pour notre job, on a eu peur de le perdre. On a eu peur de plus pouvoir être promu. Ça, c'est un sujet qui est vachement important pour ceux qui nous écoutent et qui ont entre 30 et 50 ans, j'ai envie de dire. C'est pas parce que vous avez un cancer que votre carrière s'arrête. Moi, je pense en l'occurrence que quand vous avez la chance de vous en sortir, ce qui est là, c'est pas toujours le cas, vous en sortez beaucoup plus fort.
Est-ce qu'avant ça, vous aviez peut-être des doutes, des réticences sur la maladie en entreprise ?
Non, c'est ça le pire, c'est que moi, j'ai dirigé des entreprises petite, j'ai commencé en gérant une agence de 100 personnes. Aujourd'hui, je gère un groupe de 100 000 personnes et j'ai été confronté à de nombreuses occasions à la maladie de mes collaborateurs. Et j'ai toujours eu l'impression qu'on faisait des choses incroyables pour elles. Mais honnêtement, c'est-à-dire que moi, on a même récupéré des gens qu'on allait laisser partir parce qu'ils avaient été malades. On leur a dit non, mais maintenant tu restes, on va s'occuper de toi. Et je vous répète, le sujet, c'est que la plupart des entreprises, si ce n'est la grande majorité, et c'est aussi l'initiative qu'on a lancée, se comportent très bien avec les gens qui souffrent de maladies chroniques. Le problème, c'est que les gens, un, ne le savent pas, et deux, ont peur de le dire parce que c'est un tabou.
Mais vous dites quoi à ces patrons qui disent « Ah non, il y a un dossier, elle a eu le cancer, ou il a eu le cancer, ah, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. »
Mais vous touchez du doigt exactement le problème. Le tabou du cancer, c'est ça. Parce que vous avez été malade, d'un seul coup, les gens vous font moins confiance pour l'avenir. Et ce que les patrons disent, puisque le projet qu'on a développé, Working with Cancer, c'est justement ça, c'est de dire, et c'est là où on a une chance à Publicis, c'est qu'on travaille avec les plus grandes entreprises mondiales. Hein. Aujourd'hui, vous travaillez chez Carrefour, vous travaillez chez L'Oréal, vous travaillez à La Poste, vous travaillez chez BNP Paribas. Déjà, j'en oublie beaucoup, hein, je pourrais continuer à les citer, on en a plus de 200 maintenant d'entreprises qui nous ont rejoints en France et dans le monde entier. Déjà, vous avez des grands patrons qui se sont engagés depuis qu'on a lancé cette initiative pour dire non seulement à leurs employés, mais à l'ensemble du marché, si vous avez un cancer, non seulement on va s'occuper de vous, mais on va vous aider à continuer à grandir au sein de nos entreprises. Parce que là encore, c'est pas une tare, c'est un truc très difficile qu'il faut arriver à surmonter. Mais une fois que vous l'avez surmonté, on vous remettra en selle et vous continuerez à progresser. Par exemple, dans les mesures que Publicis a prises, il y en a une qui est très importante, c'est qu'on garantit l'emploi des personnes atteintes de cancer pendant un an et leur salaire, quoi qu'il arrive. Alors en France, tout le monde va dire, bah évidemment, de toute manière, on est couvert. Aux États-Unis,
zéro.
Vous pouvez être sorti en une semaine. Non, mais non seulement vous perdez votre salaire, mais vous perdez votre assurance maladie.
Ouais.
Et vous vous retrouvez sans salaire et sans moyen de financer votre traitement qui est ultra cher dans tous les cas de figure. En France, on a juste un problème de perception, qui est de dire, bah justement, c'est pas parce que tu as eu un cancer que tu pourras plus progresser.
On oublie un peu trop qu'on est un pays qui a un cadre, qui a une protection sociale importante.
Je sais pas si on l'oublie trop, mais en tout cas, il faut qu'on en soit conscient parce que c'est pas l'argent et la protection qui va compenser la douleur. Hein.
Oui.
Ça c'est sûr, hein. Et c'est pas l'argent et la protection qui va compenser ce sentiment d'insécurité. Donc le problème est le même en France qu'aux États-Unis, mais les moyens pour le remédier sont pas les mêmes, non?
Vous lancez le mouvement Working with Cancer.
Ben, je suis là pour ça, moi.
Voilà,
je suis publicitaire.
Voilà, Working with Cancer. L'objectif, c'est que l'entreprise devienne un endroit où on se sente en sécurité quand on a un cancer, une maladie. Et c'est quoi les outils déployés pour aider les salariés?
Oui, vous savez, c'est quand j'ai reçu ces milliers de témoignages me disant que les gens cachaient leur cancer sur le lieu de travail, hein, mais c'est vraiment ça, hein, que ils allaient faire leur radio le matin et qu'après ils allaient au boulot, qu'ils prenaient des vacances pour se faire opérer du sein, ou pire encore, qu'ils cachaient le cancer de leurs enfants pour ne pas avoir l'air faible, on s'est dit, il faut faire quelque chose, quoi. Et au fond, on a lancé deux grandes initiatives. La première, c'est une charte où on demande à toutes les grandes entreprises mondiales de s'engager pour faire du lieu de travail un endroit sûr où tous les tabous du cancer peuvent tomber. Et là, on a eu des retours incroyables de toutes les entreprises quasiment du CAC 40 qui ont suivi immédiatement, ce qui est un très bon signe parce que ça montre que les politiques sont déjà en place. Mmh. Vous pouvez pas vous engager dans un truc comme ça si vous avez pas déjà les politiques. Et donc ça, c'est la première chose. Il y a un site qui s'appelle Working with Cancer. Vous pouvez voir toutes les entreprises qui ont signé. Et avec de la chance, la plupart des grandes entreprises pour lesquelles travaillent nos auditeurs ont déjà signé. Après, il y a un deuxième volet dont on a parlé au début de cette conversation, qui est, il suffit pas d'emmener les entreprises. Il faut que tout le monde comprenne que c'est un problème pour tous, parce qu'une personne sur deux va avoir un cancer dans sa vie et qu'on va vivre et travailler avec ça. Et donc là, c'est la beauté de la création, vous avez parlé de notre film, c'est la puissance des médias de créer cette prise de conscience du besoin de soutenir les malades.
Qui sont les aidants ?
C'est les gens qui aident ceux qui souffrent d'un cancer, ceux qui vous accompagnent à la radio le matin, ceux qui vous tiennent la main à l'hôpital, c'est un époux, une épouse, un frère, une sœur, un enfant. Et au fond, c'est des gens, parce que c'est un marathon, un traitement de cancer. Ouais. C'est incroyable tout ce qu'il faut faire dans une journée pour se faire soigner. Et vous avez très souvent besoin de quelqu'un qui vous aide à faire ça, c'est très contraignant. Donc ça, c'est aussi une mesure qu'on a prise à Publicis, c'est d'être sûr qu'on peut aider les gens à aider ceux que l'on aime et qui sont atteints d'un cancer.
Et vous lancez même du coaching individualisé pour...
Oui, alors ça, on fait du coaching individualisé à deux niveaux. On le fait au niveau des aidants, pour justement qu'ils mettent leur temps au bon endroit. Mais on le fait surtout au niveau des patients. On va les aider dans leur santé mentale, d'abord, parce que c'est un choc, hein, quand vous vivez avec un truc comme ça. avant, pendant et après. Et on va surtout, parce que c'est là où on est plus légitime, les aider à continuer à progresser dans leur carrière au sein de Publicis ou même parfois ailleurs, parce que les carrières changent. Nous, on est dans un métier où les gens sont assez jeunes, où ça change assez souvent, et on doit être là pour les aider parce que ça fait partie de nos responsabilités.
Et vous, personnellement, vous avez gardé quoi de cette période?
Moi, j'ai eu énormément de chance. Hein. Le cancer, honnêtement, il m'a pris beaucoup, mais il m'a donné beaucoup aussi. Donc, je suis rentré là-dedans avec une maladie, j'en sors avec une mission. Et c'est le fait que j'ai révélé ma maladie qui m'a ouvert les yeux. J'espère avoir initié quelque chose qui, maintenant, est un projet collectif qui me dépasse largement. Et d'ailleurs, toujours un peu compliqué pour moi de parler de moi-même parce que j'ai jamais aimé ça. Mais si ça peut servir la cause, je le fais un peu. Mais j'ai senti que c'était mon devoir et celui de Publicis qui, au fond, est une boîte de création, d'influence, qui peut donc aider sur un sujet comme ça.
Et vous l'avez dit en préambule de cette conversation, il faut se faire vacciner. Pour tous les adolescents notamment, et ça c'est un message que vous répétez souvent.
Ah ouais, non mais alors attendez, parce que je dis j'ai eu de la chance, mais on ne peut pas savoir à quel point j'ai souffert. Et ça c'est évitable. Ouais. Il suffit d'aller se faire vacciner, hommes et femmes. Quand on sait que 80% des gens qui nous écoutent dans un âge adulte vont avoir ce virus à un moment ou à un autre. Donc oui, je sais que ce n'est pas très politiquement correct, mais faites-vous vacciner. Ouais.
Et on est tous égaux. En fait, c'est le discours, c'est ma dernière question. On est tous égaux face à la maladie, qu'on soit connu, qu'on soit pas connu, qu'on soit riche, pas riche. Quand ça nous tombe dessus, ça nous change la vie.
Ouais, quand ça nous tombe dessus, ça nous change la vie. Mais non, on n'est pas tous égaux. C'est plus facile quand vous êtes patron du CAC 40, que vous avez 51 ans, que votre carrière est quand même derrière vous, et que le cancer dont vous souffrez est normalement un très bon pronostic. Donc, il y a quand même des cas très, 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 très désespérés et qui le sont plus que d'autres. Moi, une fois de plus, j'ai eu beaucoup de chance. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un problème qui nous touche tous. Hélas, tous ceux qui nous écoutent, s'ils n'ont pas déjà été confrontés au cancer directement ou indirectement, le seront dans l'avenir. Et c'est notre devoir à tous de nous occuper des patients et de s'assurer, en tout cas sur le travail, puisque c'est la cause qu'on défend, qu'on peut les aider à passer cette épreuve et à continuer normalement dans leur vie plus tard.
Merci à vous, Arthur Sadoun.
Merci beaucoup.
Un spectateur lui a lancé « Relève-toi, bonobo » lors d'un match de basketball la semaine dernière. Le basketteur messin Loïc Akono revient sur cet incident raciste pour Focus Dimanche. C'est dans un instant sur RTL.
Focus Dimanche sur RTL. RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi.
Un match qu'il n'est pas prêt d'oublier. Alors qu'il reste seulement 2 minutes 30 à jouer dans le troisième quart-temps du match, Loïc Akono de l'équipe des Canonniers de Metz plonge à terre une équipe de basket. En tribune, un spectateur lui lance « Relève-toi, bonobo ». Choqué, il quitte le terrain. Il est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Loïc Akono.
Bonjour.
Loïc Akono, quand vous entendez « Relève-toi, bonobo », comment vous réagissez?
Après la chute, il y a un coéquipier qui est venu pour me relever et c'est lui qui a entendu ce spectateur dire « Relève-toi, bonobo ». Et c'est lui qui a demandé au spectateur de répéter. Et derrière, quand je me suis levé, je me suis dit « Non, c'est pas possible ». Les nerfs sont montés à vif sur le coup et je voulais vraiment discuter avec cette personne pour lui faire part que c'était pas correct ce qu'elle disait et que j'étais très remonté d'avoir entendu ça.
C'est pas que c'est pas correct, c'est inadmissible, Loïc, faut le préciser. Le match à ce moment-là est retransmis sur les réseaux sociaux de votre club.
Oui.
Akono qui reste au sol, il y a un petit échange de coups de boule, j'ai l'impression, involontaire, bien sûr. Et Loïc, avec le sourire, qui chambre le public.
Et pourtant, Loïc, à ce moment-là, vous ne chambrez pas le public, le commentateur se trompe.
Non.
Qu'est-ce qui se passe?
Oui, parce qu'en fait, sur le terrain, je suis un joueur assez joyeux. Quand on me chambre ou quand on essaye de me déstabiliser, je rigole beaucoup avec le public. Et à ce moment-là, c'était pas du chambrage, c'était juste une insulte à ma personne. Et puis voilà, j'étais très remonté sur le coup. Et puis voilà, quand j'ai décidé de quitter le match, c'est là que je me suis senti très blessé, très humilié.
Loïc, vous l'expliquez, à ce moment-là, vous voulez sortir du match? Et l'arbitre vous menace d'une sanction, d'une faute technique en clair. Est-ce qu'on... J'essaie de comparer, Loïc, hein. C'est comme un carton jaune au foot. Et là, vous vous dites, mais il ne comprend pas ce qui vient de se passer, c'est ça?
C'est exactement ça, en fait. Moi, je voulais parler à cette personne, mais l'arbitre voulait que le jeu reprenne et il voulait que je garde mon calme pour éviter que ça se retourne contre moi et pour éviter de prendre une faute technique. Mais si on prend deux fautes techniques dans un match... carton rouge et on sort, quoi. Donc c'est de ça que l'arbitre m'a menacé. Et puis derrière, bon, je me suis un peu emporté aussi parce que je me suis dit, mais c'est un peu de l'injustice. Je me fais insulter et derrière, je risque de me faire pénaliser. Donc pour moi, c'était vraiment inadmissible sur le coup.
Et vous avez décidé de quitter le parquet et de rentrer au vestiaire.
Tout s'est enchaîné très vite. Ça a été très bizarre pendant 2 minutes parce que le jeu a repris. Donc j'étais sur le terrain, mais j'étais là sans être là. Et derrière, il y a eu un autre arrêt de jeu où j'ai eu le temps de prévenir le deuxième arbitre du match.
Oui.
Pareil, en vain. J'avais l'impression de pas être écouté. Et il y a eu ce changement. En fait, je suis sorti du terrain parce que mon coach m'a changé. Je pense que c'était plus pour me calmer et parce que personne ne savait réellement ce qui s'était passé. Et dès que je me suis retrouvé sur le banc de touche, je me suis dit que j'avais plus rien à faire sur ce terrain. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer au vestiaire.
Relève-toi, bonobo. Voilà les mots que Loïc Akono a entendu, le joueur des canonniers de Metz la semaine dernière. Juste un mot encore, Loïc Akono. La justice a ouvert une enquête et la Fédération française de basket a ouvert aussi une enquête et un dossier disciplinaire. Vous pensez qu'il y aura des suites ?
Oui, je pense qu'il y aura des suites. Pour ma part, vraiment, c'est la première fois que je vis ce genre de choses-là, que ce soit sur un terrain de basket ou même en dehors, dans la vie en général. Mmh. Et donc, j'avais besoin d'être aiguillé. Donc, j'ai eu toutes les personnes qui m'ont un peu aidé, le président de la fédération de basket, les dirigeants de mon club aussi qui vont m'accompagner dans toutes les démarches. La personne a été identifiée et a reconnu les faits. Et donc,
c'est un petit soulagement pour vous, Loïc, que la justice se soit saisie de cette affaire, que des gens sur les réseaux sociaux vous aient soutenu. On parle quand même de soutien incroyable hein, sur les réseaux, 830 000 vues pour votre vidéo, des sportifs notamment dans le football, dans le rugby qui se sont offusqués aussi de cette situation. Ça vous a fait du bien ?
Oui, ça m'a fait du bien. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mon seul but, c'était de dénoncer. Et puis voilà, il y a eu un soutien énorme de la part déjà de ma communauté basket et puis de tout le monde dans la vie en général. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et ce que j'en attends de la suite de cette affaire, c'est que la personne soit punie forcément par la loi et par les instances fédérales.
Ce qu'il faut pour cette personne, c'est une interdiction de parquet, quoi, une interdiction de stade, hors de question de la revoir dans une enceinte de basket.
Oui, hors de question, c'est des comportements qu'on peut pas tolérer. Toute forme de discrimination, on ne peut pas tolérer ça dans le sport. On vient pour prendre du plaisir, pour profiter, les gens viennent supporter une équipe, peut-être aussi chambrer un peu l'adversaire, mais tout doit rester dans le respect, et le respect de l'homme surtout.
On prend un peu de recul, Loïc Akono. Grâce Zahadi, une joueuse de handball, insultée dans une enceinte aussi durant une rencontre. Khalidou Koulibaly, le joueur de Chelsea, qui est un ancien joueur de Naples, insulté en Italie sur des terrains de foot. Il y a plein d'affaires. Je pense à Samuel Eto'o, légende du football camerounais. L'arbitre, il n'a pas arrêté le match avec vous, Loïc Akono. Il a expliqué qu'il n'a pas entendu ce qui s'est passé. On doit croire les joueurs. On doit arrêter les matchs de handball, de basket, de football, quand ça se passe.
Oui, ce sont des faits très, très, très graves. Et si le match doit être arrêté 2 minutes, 3 minutes, il faut peut-être prendre le temps.
Oui.
Je pense que ça n'aura aucune incidence sur le jeu si le match s'arrête 3-4 minutes pour essayer de comprendre. Mais je pense aussi que voilà, c'est quelque chose où il faut qu'on essaye de progresser, autant les joueurs, les arbitres et la ligue aussi, la fédération, pour faire en sorte que si ça arrive, malheureusement, j'aimerais que ça arrive plus, qu'on sache comment réagir dans ce genre de situation.
Merci beaucoup Loïc Akono, merci à vous.
Merci.
Et on espère bien évidemment que ce spectateur ne remettra plus jamais les pieds dans une enceinte de basket. Hors de question de voir ce genre de propos et ce genre de comportement dans notre société. Bon dimanche à vous sur RTL. Merci Loïc.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Il a remporté le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Vous adorez Riyad Satouf ? Eh bien, il est mon invité dans Focus Dimanche. Celui qui est connu pour sa série de bande dessinée L'Arabe du Futur revient sur l'histoire de son succès. Restez avec nous, c'est dans un instant sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche. RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi.
ses bandes dessinées cartonnent partout dans le monde. Il vient de remporter le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Connu de tous pour sa bande dessinée L'Arabe du Futur, vendue à plus de 3 millions d'exemplaires et traduite en 23 langues. Riyad Satouf est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Riyad.
Bonjour Mohamed.
Vous pensiez un jour, Riyad, obtenir la récompense suprême du 9e art, le Grand Prix du Festival d'Angoulême?
Alors non, sincèrement, c'est le genre de récompense qu'on ne peut pas espérer, puisque ce sont les auteurs et les autrices qui votent. Donc moi, je sais que quand j'étais ado et que je rêvais déjà de devenir auteur de bande dessinée ou au moins d'être publié une fois, voilà, je pouvais pas espérer ou rêver même d'un tel prix. Je n'ai jamais pensé en fait que je pouvais être récompensé d'une telle chose, en fait, voilà, parce que j'ai l'impression toujours d'être un jeune auteur. En fait, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie d'auteur. Voilà, j'ai commencé par faire des bandes dessinées d'humour extrêmement trash, grinçantes, etc. Et ensuite, avec L'Arabe du Futur, Les Cahiers d'Esther, j'ai voulu faire des bandes dessinées pour les gens qui n'en lisent pas et donc les rendre plus accessibles et plus faciles, entre guillemets, à lire. Notamment parce que j'ai pensé à ma grand-mère bretonne comme première lectrice. Je me suis dit comment je pourrais les amener à la lecture, à cet art que j'aime tellement, et en leur montrant tout simplement que n'importe qui peut lire une bande dessinée et y trouver à la fois du plaisir, un intérêt, et que ça peut être aussi bien, voire bien mieux que des romans. Voilà, c'est un art et un moyen d'expression extrêmement puissant.
C'est ça en fait, la patte Riyad Satouf tout simplement, et qui en fait l'un des meilleurs dessinateurs, si ce n'est le meilleur actuellement. Il y a 20 ans, c'était le prix René Goscinny pour Les Pauvres Aventures de Jérémy. Qu'est-ce que ça va changer, le Grand Prix d'Angoulême, dans votre quotidien?
Bah, honnêtement, je vais essayer vraiment de tout faire pour que ça ne change rien du tout, parce que j'ai toujours plusieurs projets en cours. Je vais continuer comme si c'était pas arrivé, mais c'est vrai que cette élection, ça me va quand même droit au cœur, parce que c'est vrai que je me tiens un petit peu à l'écart, disons, des festivals de bande dessinée, ouais. du entre guillemets, de ce qu'on peut appeler le milieu de la bande dessinée, parce que je dessine beaucoup et je sors assez peu de chez moi. Quelque chose qui est très très émouvant quand on est un petit peu un ermite comme moi.
Riyad, vous vous souvenez de votre première télévision?
Je crois que c'était pour la sortie du journal Pilote. Je crois que je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça.
C'est ça. Écoutez, c'était en 2003.
Je suis très content de travailler dans Pilote parce que je me retrouve dans le même magazine que Claire Bretéché, Gottlieb, Giraud. C'est des dessinateurs que je lis depuis que je suis tout petit et je les adore et ça me remplit de bonheur.
Et aujourd'hui, il y a des jeunes dessinateurs qui expliquent qu'ils ont travaillé avec Riyad Satouf ou qu'ils aimeraient bien côtoyer Riyad Satouf comme vous avec Claire Bretéché ou Gottlieb.
Aïe, 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 bah oui, c'est vrai que ça ne nous rajeunit pas. De toute façon, d'autant plus que je suis assez étonné de l'accent parisien que j'avais à l'époque, qui n'était absolument pas conscient dans ma tête. Mais c'est vrai que voilà, le temps passe et il passe pour tout le monde.
Il y a un beau symbole du destin avec ce Grand Prix d'Angoulême, c'est que on a vu il y a quelques semaines sortir le sixième tome de vos bandes dessinées autobiographiques, L'Arabe du Futur. C'est joli quand même de recevoir ce Grand Prix au moment où vous mettez fin à l'une de vos plus belles aventures.
Bah écoutez, oui, c'est vrai que cette espèce de coïncidence étrange, voilà, je la vois, mais je pense qu'il s'agit juste d'un hasard et d'une coïncidence. En tout cas, je suis très heureux en effet de l'accueil que les lecteurs ont donné à ce sixième tome, et voilà, ça me touche énormément.
Mais ce n'est pas le cas des Cahiers d'Esther, c'est pas terminé, hein, vous rassurez vos fans. Il y a deux autres tomes qui sont en préparation.
Non, voilà, les Cahiers d'Esther continuent. Et puis surtout, il y a d'autres bandes dessinées que je suis en train de préparer.
Voilà, ah, il y a des nouveautés qui arrivent.
Je n'ai pas du tout fini ma carrière. Je n'ai pas prévu de prendre.
Non, mais alors, une petite indiscrétion. Vous travaillez sur quoi, là, actuellement, Riyad, par exemple?
Non, bah écoutez, là je suis en train d'écrire le scénario d'un film, oui. Et puis j'ai des différents projets de bande dessinée, mais alors c'est vrai que comme, vous savez, je préfère que ce soit les projets qui fassent parler d'eux plutôt que de parler des projets avant qu'ils ne soient faits. Mais voilà, je suis en train de dessiner et je vais faire des nouvelles choses bientôt.
Vous avez eu le César du premier acteur en 2010, là aussi vous voulez vous relancer, j'ai envie de dire, sur le cinéma, c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Bah écoutez, moi c'est vrai que je suis un auteur de bande dessinée, donc ce qui me plaît c'est de dessiner toute la journée près de ma table à dessin. J'ai eu la chance de pouvoir faire deux films, Les Beaux Gosses et ensuite Jackie Rome des filles. Et c'est vrai que le cinéma c'est une activité qui est totalement différente de l'activité d'auteur de bande dessinée. Et donc là je me dis que peut-être c'est le moment que je pourrais réessayer de faire un film. Mais voilà, je touche un petit peu du bois, heureusement mon bureau est en bois et on en reparlera peut-être dans quelques temps.
Riyad, j'ai une dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure votre bande dessinée Retour au collège, écrite dans les années 2000, c'est ça ?
Oui, 2005.
2005, voilà, 2005. Certains sur les réseaux sociaux ont critiqué certaines pages de cette bande dessinée Retour au collège en évoquant des images choquantes, notamment pour les adolescents, des images sexuelles, une polémique vous concernant. Comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous répondez à ces gens, notamment sur les réseaux sociaux ?
Oh bah écoutez, alors moi c'est vrai que vous savez que les bandes dessinées telles que je les fais s'inspirent de faits réels, c'est-à-dire de choses que j'ai vues ou entendues ou que j'ai expérimentées, et donc je fais ça depuis de nombreuses années. J'exagère beaucoup, j'essaie de faire des bandes dessinées qui sont marrantes, mais comme je vous le disais, j'ai commencé par faire des bandes dessinées assez trash. J'ai parfois des gens qui en effet détestent mes bandes dessinées, mais je sais pas vraiment quoi leur dire. Je leur conseille peut-être de lire autre chose. Je peux concevoir que il y a certaines, vous savez, l'Arabe du futur aussi, il y a des gens qui n'aiment pas du tout et qui trouvent ça excessif ou exagéré, voilà. Moi je fais des livres et je fais des livres surtout pour les gens qui les lisent, parce que on peut prendre des images et sortir de leur contexte et leur faire dire vraiment tout ce qu'on veut. Moi je n'y porte pas grande attention.
Oui, c'est en clair, c'est des images de 2005 dans un livre précis, dans une bande dessinée Retour au collège, qui décrit aussi la vie d'adolescent. Sorti de son contexte sur les réseaux sociaux, c'est complètement différent. Il faut lire le livre, c'est ce que vous expliquez, il faut lire la bande dessinée.
Bah écoutez, oui, alors déjà en plus cette bande dessinée n'est plus éditée, parce que je comptais la ressortir, vous savez, la remanier, etc. Donc parce que je veux dire par là, c'est que mon temps à moi est celui du livre, voilà. Je fais des dessins, vous savez, souvent on m'a proposé d'exposer par exemple des pages dans des galeries ou de faire des expositions de mes dessins, etc. Et moi c'est vrai que les dessins, les pages ne sont pas faites pour être sorties du livre. Pour moi, quand je dessine une page de bande dessinée, elle est faite pour suivre une autre page, pour en précéder une autre. C'est la lecture de l'ensemble qui doit provoquer l'émotion de lecture. Voilà. Moi, les réseaux sociaux, ou même le temps médiatique, ou le commentaire, etc., c'est quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment et qui ne m'intéresse pas tellement. Voilà, moi, je préfère les livres.
Merci beaucoup, Riyad. On vous souhaite beaucoup de succès dans les deux derniers tomes des Cahiers d'Esther. C'est ça, ça va être les deux derniers tomes, hein ?
Eh bien, oui, normalement. Oui, tout à fait, les deux derniers tomes.
Avant une belle aventure au cinéma. Merci beaucoup, Riyad Satouf. Encore félicitations d'avoir été grand prix du Festival d'Angoulême Le Graal pour le 9e art pour la bande dessinée. Et c'est une fierté française. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche sur RTL. Merci beaucoup, Riyad Satouf.
Merci beaucoup, merci.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur RTL chaque dimanche et je vous en remercie. Vous le savez, Focus Dimanche, c'est votre émission. L'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité chaque dimanche à 13h sur RTL. Et tous les jours, vous retrouvez Marion Calais dans le podcast Focus qui décrypte une information. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Manu Payette. Il est l'invité de Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show.
Focus Dimanche sur RTL.